Radio Capi.
Oh, Capi.
Le journal Belinda Boussouma.
Huit écoles de Kalemi, Moba et Nyunzu inondées par les eaux du lac Tanganyika. Du coup, plusieurs élèves étudient dans des mauvaises conditions, rapporte le directeur provincial de l'éducation de Tanganyika 1. Il lance à nouveau un SOS auprès des autorités compétentes car le précédent n'a pas abouti jusqu'ici, dit-il. Clôture hier à Beni au Nord Kivu de la rencontre des experts militaires de la RDC et de l'Ouganda. Les deux armées ont fait le point sur l'évolution des opérations de traque des rebelles des EDF dans certains coins du Nord Kivu et de l'Ituri. Elles se disent satisfaites des résultats obtenus jusqu'ici. Et puis, il faut mettre fin à la politisation de la justice, à son instrumentalisation visant à régler des comptes à des adversaires politiques. C'est l'une des recommandations de Mgr Donatien Cholet aux travaux des États généraux de la justice. Le secrétaire général de la CENCO est l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part de Kalemi où nous apprenons que 108 écoles ont été détruites par les inondations des eaux du lac Tanganyika. Il s'agit des écoles de la ville de Kalemi et des territoires de Kalemi, Moba et Nyunzu. Information livrée à la presse jeudi par le directeur provincial de l'éducation et nouvelle citoyenneté de Tanganyika 1, Nicolas Prince Baeleai, indique que plusieurs élèves étudient dans des mauvaises conditions. Il dit avoir fait un plaidoyer auprès des autorités et des partenaires, mais aucune réaction jusqu'à présent. On écoute le directeur provincial de l'éducation de Tanganyika 1 dans cet extrait choisi par Paulin Munanga.
Il n'y a que 25% d'écoles de Tanganyika 1 qui sont construites en dur. Le reste, c'est en matériaux locaux. Pour dire clair, c'est embisé. Vous voyez un peu la difficulté. C'est à tout moment que la communauté doit procéder à des réparations des toitures, à des réparations des murs. Et cela s'est aggravé avec la dernière vague de crue du lac Tanganyika que nous avons connue et qui a impacté sur 108 écoles. Dans l'ensemble, rien que pour Tanganyika 1, pour une population scolaire estimée à 40 000 élèves qui ont vu leur scolarité perturbée à cause de cela. Et à ce jour, nous avons mené beaucoup de plaidoyers, que ce soit auprès de la haute hiérarchie, que ce soit aussi au niveau des partenaires techniques et financiers, et même de la communauté locale. Mais jusque-là, on n'a pas encore reçu un feedback de nature à soulager ces problèmes-là.
Du côté de l'Ituri, l'école primaire d'application de Bogoro dans le secteur de Baïma Sud connaît cette année un accroissement d'effectifs de près de 40%. Les responsables de cette école attribuent cette augmentation à la dotation par le gouvernement d'un nouveau bâtiment dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Jean-Claude Lowe qui nous en dit plus.
Il s'agit de deux édifices pimpants neufs dotés de 9 salles spacieuses équipées de pupitres, tableaux ainsi que de chaises et tables pour le corps enseignant. On y trouve également des latrines et des bureaux administratifs ainsi qu'une salle polyvalente. Emmanuel Kabagambe est le directeur de l'école.
Cette fois-ci, nous avons l'effectif de 349 élèves. Aux années antérieures, là-bas, nous jouons sur l'effectif de 250, 270, des choses pareilles. On n'a pas encore atteint 300, mais cette fois-ci, je vois qu'il y a l'augmentation d'effectifs.
Il attribue cette hausse des effectifs à la gratuité de l'enseignement décrété par le gouvernement, mais surtout aux infrastructures qui permettent aux enfants d'étudier dans de bonnes conditions. Rebecca Mbavazi, enseignante de deuxième année du primaire, confirme.
Avant, on fonctionnait dans un bâtiment. Lorsque la pluie tombe, il était difficile de poursuivre les enseignements à cause de bruit, comme les salles n'avaient pas de plafond. Mais actuellement, les enfants et nous-mêmes sommes bien. Même s'il pleut, nous enseignons sans problème.
La remise officielle de ces ouvrages a eu lieu en novembre de l'année dernière, mais c'est depuis la rentrée scolaire 2024 qu'elle fonctionne à plein régime. De retour de Bogoro, Jean-Claude Lequi, Radio Capi.
Dans la province du Maniema, 35 médecins qui ont fini leur cursus académique se sont inscrits au tableau de l'Ordre des médecins. Cet acte a été précédé par leur prestation de serment. Le président provincial du Conseil de l'Ordre des médecins du Maniema exhorte ces derniers à travailler dans le respect des normes du pays et de leur profession. Florence Kiza, reportage.
La prestation de serment ouvre la porte à ces médecins pour œuvrer dans la province. Ainsi donc, docteur Charles Omesumbu leur prodigue ses conseils.
Aujourd'hui, nous sommes venus recevoir les serments des 35 impétrants qui sont inscrits au tableau de l'Ordre des médecins. C'est pas tout celui qui a fait la médecine, tout celui qui a un diplôme de docteur en médecine qui est habilité à exercer comme médecin. L'exercice de la médecine, c'est un ministère. Donc, ce sont des nobles dans la société. Ils doivent respecter les serments qu'ils ont prêtés aujourd'hui. Et ils doivent respecter la vie humaine dès la conception. Donc, nous ne nous attendons pas à avoir des gens parmi eux qui seront là en train de ôter la vie, même à des fœtus. Nous leur avons rappelé que la santé de leurs malades sera leur première motivation. Donc, c'est pas d'abord l'argent, mais c'est d'abord la santé du malade.
Pour leur part, les médecins se disent conscients de la tâche qui les attend. L'un d'eux, docteur Jérémy Moutala.
Aujourd'hui, nous avons prêté serment. Nous garantissons à la société de pouvoir travailler dans la quiétude et travailler dans la légalité, conformément à la loi.
Selon le président provincial, à ce jour, les médecins inscrits au tableau de l'ordre sont autour de 600 dans la province du Maniema. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Je vous le disais en titre, la rencontre des experts militaires de la RDC et de l'Ouganda, ouverte à Beni, s'est clôturée hier. Pendant 72 heures, les deux armées ont fait le point sur l'évolution des opérations de traque des rebelles des EDF, notamment dans les territoires de Beni, Lubero et Mambasa en Ituri. Les FARDC et les UPDF se disent satisfaites des résultats obtenus jusqu'ici. Elles félicitent par ailleurs les populations pour leur collaboration avec les forces de sécurité, ce qui a permis d'obtenir ces résultats. Pour le porte-parole des opérations conjointes dans la région, l'apport de la population est significatif en termes de renseignement et soutien moral aux troupes engagées au combat contre ces rebelles. Le colonel Mark Azukai s'exprime au micro de Marc Marofimbo.
Les forces de la coalition FARDC-UPDF contrôlent ce qui était considéré jadis comme le bastion de l'ennemi, à savoir le Graben, la vallée de Mwalika, le massif de Rwenzori, le triangle dit de la mort de triste mémoire. L'ennemi avait migré à l'ouest de la nationale numéro 4. La menace a atteint le territoire de Mambasa. Et là aussi, il y a un travail qui est en train de se faire. Il y a des cellules dormantes du terrorisme qui sont dans des agglomérations. Donc tout le monde doit doubler vigilance et surtout donner beaucoup de chance aux forces de la coalition. Et plus pour nos compatriotes du secteur de Bapere et aussi au sud du territoire de Mambasa, nous devons encore travailler ensemble. Parce que le résultat que nous avons, c'est le résultat qu'on a obtenu ensemble. La population nous est importante en termes de renseignement, en termes de soutien moral. Donc, le message le plus fort, c'est de continuer à croire à la victoire des forces de la coalition sur les islamistes de l'ADF.
Direction la province du Haut-Katanga. Plus de 1000 femmes vendeuses au marché Kasulo à Kolwezi ont été sensibilisées samedi sur le cancer du sein. Cette manifestation a été organisée par le réseau pour la promotion et l'autonomisation de la femme, REPAF, en collaboration avec l'association des femmes professionnelles de la santé. Une centaine d'entre elles ont été aussi dépistées sur place dans le bureau de l'administrateur du marché, aménagé pour la circonstance. Détail avec Aimé Manyong, président du réseau pour la promotion et l'autonomisation de la femme. Elle est jointe par Jean Gandou.
Étant donné que l'autonomisation de la femme est une question complexe et transversale qui touche aussi les aspects de sa santé, nous sensibilisons également sur les aspects sanitaires qui touchent la santé mentale ou la santé physique de la femme afin que son bien-être général puisse nous permettre d'avoir des résultats en termes d'autonomisation économique. Notre cible sont les femmes et les jeunes filles. C'est une sensibilisation des masses qui se fait dans le marché et c'est un grand marché qui compte plus de 1000 femmes qui travaillent dedans. Celles qui se sont présentés et qui ont été enregistrés pour le dépistage volontaire sur place, c'est une centaine. Après les dépistages volontaires qui s'est fait sur place, s'il y a des cas qui s'avère être suspect, nous les référons directement auprès de Dr Fanny Malonga à l'hôpital général Mwangeji et c'est là qu'elle assure une prise en charge gratuite. S'il y a des cas qui sont en état très avancé, elle aussi s'est référée à son niveau par rapport à ses responsabilités. Elle sait comment elle va gérer cela.
Les campagnes de vulgarisation des textes qui militent pour la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre, ainsi que l'égalité entre hommes et femmes, portent déjà des fruits. C'est le constat fait par les leaders communautaires de Katoni et Bogoro, deux entités coutumières situées à la périphérie de Bunia, dans la province de l'Ituri. C'était à l'occasion d'un atelier organisé par la section du genre de la MONUSCO Bunia, en vue d'améliorer le statut des femmes et leur représentation dans les structures communautaires. Jean-Claude Loki, reportage.
Cette campagne de sensibilisation vise à casser les barrières et les us et coutumes qui freinent l'émergence des femmes. Depuis plusieurs années, la section du genre de la MONUSCO organise des échanges pour, entre autres, convaincre les hommes à s'associer à ce combat pour l'égalité des sexes entre les hommes et les femmes. Pour Romeo Oudo, habitant du village de Katoni, des changements considérables sont enregistrés.
Notre chef du village de Bouissabouni a procédé par élire les mamans comme les chefs des maisons qui sont femmes. C'est à l'issue des formations et des restitutions que nous amenons dans le milieu que nous avons déjà trouvé, il y a eu changement.
Jeannette Mavé, mère de famille qui vit à Bogoro, est du même avis. Pour elle, les femmes sont de plus en plus associées par leurs époux à la prise de décisions qui concernent la gestion de leur foyer.
Actuellement, nous les femmes avons droit à la parole, chose qui n'était pas possible avant. Par exemple, exercer une quelconque activité commerciale. Avant, c'est l'homme qui s'accaparait de toutes les recettes. Mais grâce à ces sensibilisations, nous pouvons maintenant aisément mener nos commerces.
Une trentaine de personnes, membres de comités locaux de protection, ont pris part à cette activité qui s'est déroulée à Bogoro, à 25 km de Bounia. De retour de Bogoro, Jean-Claude Loki, d'Ile Radio Okapi.
Et puis, la commission provinciale Vérité, Justice et Réconciliation dans la province du Kasaï central s'engage à travailler en synergie avec le Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles, FONAREV. Les délégués de ces deux institutions publiques se sont retrouvés dans un atelier de 3 jours à Kinshasa pour mutualiser leur stratégie dans le cadre de la justice transitionnelle. Ces assises se sont clôturées hier samedi. Tout s'est passé sous l'encadrement du bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme et ONU Femmes. Pour le président de la Commission provinciale Vérité, Justice et Réconciliation au Kasaï central, cet atelier a permis à sa structure de travailler désormais sur une même matière que le FONAREV. Augustin Loko le dit au micro de Askin Zigbi à Taoro.
Nous allons travailler en collaboration avec FONAREV, dans ce sens que FONAREV a la priorité de la réparation. Mais dans cette réparation, il y a l'identification. Or, l'identification, c'est d'abord savoir la vérité. Et du côté de la CPVJR, nous avons la vérité à établir, la vérité des faits, nous avons la justice et nous avons la réconciliation. La réconciliation, c'est en vue de la réparation. Voilà pourquoi la CPVJR et le FONAREV, qui ont certaines missions en commun, devront travailler ensemble. Voilà ce pourquoi nous nous sommes rencontrés, pour établir une passerelle, établir un cadre de concertation, afin que notre travail d'ensemble porte des fruits, et des fruits qui demeurent, parce que nous avons les mêmes objectifs, ce sont les victimes. Accompagner les victimes pour les mettre et les remettre dans leurs droits qui ont été bafoués.
Bandalungwa, une commune de la ville de Kinshasa, dit Bandal Separi par certains de ses habitants, est loin d'être ainsi nommée durant la saison des pluies. Plusieurs de ses artères principales sont souvent méconnaissables lors des pluies diluviennes qui s'abattent sur la ville. C'est entre autres les avenues Kisangani, Lubumbashi, Asolongo, en allant vers Kitambo, Kimbondo, Inga et Sundi, pour ne citer que celles-là, présentent un spectacle désolant, une situation qui perdure depuis plusieurs mois maintenant et qui met à mal la vie de la population riveraine. Plamedi Mbiavanga a fait la ronde de quelques-unes de ses artères. Voici son reportage.
Des nids de poules, des bourbiers, des caniveaux bondés d'immondices et des bouteilles en plastique déversent des eaux puantes sur plusieurs chaussées. C'est le cas entre autres du croisement des avenues Sundi et Kisangani au quartier Makelele. Ici, l'eau fait bon ménage avec la chaussée, ce qui occasionne des embouteillages à ces points précis. Au dire des habitants du coin, l'absence des poubelles publiques serait à l'origine de cette situation.
Avec les poubelles qu'on est en train de jeter dans les carnivaux, vu qu'il n'y a pas l'entretien, toutes les poubelles là sont coincées en cours de route là où il y avait les tuyaux. Maintenant, il n'y a plus moyen que l'eau puisse passer.
Une fois que l'eau qui vient de pleuvoir, il y a deux jours passés, ça a vraiment causé des problèmes. Comment les gens vont passer? C'est la venue de Fali Poupa, c'est la venue du ministre des médias, Mouyaya. On ne sait pas comment faire.
Cette réalité durant la période des pluies les empêche de vivre paisiblement. Il lance un message aux autorités.
Vraiment, ça fait la honte. Demandons vraiment à l'État de venir nous secourir afin que cette chose-là, ça puisse se terminer.
Qui doit venir envoyer les gens pour qu'ils puissent venir réparer parce qu'il y a la route qui est en train de s'abîmer. Si vous voyez avec des l'eau qui est en train de faire sortir ici, il doit se prendre en charge et venir réparer la route.
Il précise également que la réhabilitation de cette route ne suffit pas. Il faudrait un suivi régulier durant la période des pluies.
Actualité internationale. Les inondations qui frappent le Soudan du Sud à grande échelle ont affecté plus d'un million de personnes et en ont déplacé plus de 379 000 autres. C'est ce qu'indique le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU. Ce dernier met en garde contre une recrudescence du paludisme dans plusieurs régions touchées par les intempéries. Le régime militaire au Burkina Faso veut rétablir dans son code pénal la peine de mort, ce qui avait été aboli en 2018. C'est ce qu'a affirmé hier une source gouvernementale, confirmant des propos tenus la veille par le ministre de la Justice.
L'invité.
Il faut mettre fin à la politisation de la justice, à son instrumentalisation visant à régler des comptes à des adversaires politiques. C'est l'une des recommandations faites par Mgr Donatien Cholet aux travaux des États généraux de la justice, et ce, dans le cadre des réformes envisagées. Le secrétaire général de la Conférence nationale épiscopale du Congo, CENCO, est l'un des panélistes intervenant à ces travaux. Invité de Radio Okapi ce midi, il s'entretient avec Jeff Ngoy.
Monseigneur Donatien Cholet, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi la justice congolaise est-elle malade?
Eh bien, je crois que c'est le diagnostic qui est en train d'être fait maintenant dans ces états généraux. Et particulièrement, j'ai épinglé deux grandes maladies, la corruption et puis la politisation de la justice. Et la principale cause, à mon avis, bon, c'est l'homme, c'est l'égoïsme, c'est le matérialisme. L'homme veut tout avoir pour lui, ignorant les droits des autres. Et c'est ça qui entraîne la corruption, c'est ça qui entraîne la politisation. Donc la justice est influencée, instrumentalisée. Les décisions de la justice sont bloquées pour des intérêts politiques. Et qui dit intérêt politique, généralement, ce sont des intérêts matériels parce que chez nous, on fait la politique pour s'enrichir.
Avez-vous quelques éléments pour étayer ce que vous dites?
Bien sûr que oui. Prenons le cas, un cas à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Une pauvre dame, docteur Séverine, qui avait gagné les élections, mais la CENI ne l'a pas proclamée, elle est allée en justice au Conseil d'État. Le Conseil d'État lui a donné raison. Le jugement a été signifié au niveau de l'Assemblée provinciale. Même le président de la l'Assemblée provinciale en est consciente, mais l'Assemblée provinciale, la dynamique de l'Assemblée provinciale, pour des raisons politiques, bloque la validation. Et allez-y comprendre quelque chose. On cherche une manœuvre dilatoire, faire encore un recours à la Cour constitutionnelle. J'ai parlé avec le président de la Cour constitutionnelle qui m'a dit non, ce recours n'a pas d'effet suspensif. Donc, un exemple concret pour montrer comment un jugement du Conseil d'État est mis à mal par un groupe de gens qui s'arrangent pour des raisons politiques pour nuire à une pauvre dame en plus.
Quelle peut être la thérapie que vous proposez pour sortir de tous ces mondes? Bon,
je crois que c'est la conscience d'abord, donc la conversion. La conversion au niveau individuel, la conversion au niveau personnel. Un être humain, une conscience humaine ne authentique ne peut pas trouver normal priver à quelqu'un de ses droits. Donc ça nous revient aussi comme religieux d'éduquer la conscience des gens. Mais il y a aussi l'impunité qui favorise tout ça. Donc il faudra que tous ceux qui se permettent à nuire aux autres par l'instrumentalisation de la justice, qu'on puisse mettre en place des dispositifs, des mécanismes pour les sanctionner. Parce qu'il y en a qui se croient vraiment au-dessus de la loi.
Donc l'impunité, il faut mettre fin à l'impunité.
Il faut mettre fin à l'impunité.
À quelle réforme vous vous attendez?
Il y a tellement beaucoup de choses. Moi, j'attends des réformes qui puissent donner davantage à notre justice la chance d'être une justice qui élève la nation. Des réformes qui puissent identifier tout ce qui ne va pas et qui trouve le mécanisme pour contrecarrer les mauvaises pratiques actuelles.
Et ces réformes peuvent aboutir à la révision constitutionnelle que vous condamnez?
Ben, je crois que le principe de la révision constitutionnelle, personne ne le condamne. C'est pas la CENCO en tout cas. C'est question d'opportunité, c'est question d'intention. Parce que les langues, c'est délit. L'intention, c'est de contourner l'article 220. L'intention, c'est de rester le plus longtemps au pouvoir. Et c'est dit par certains qui font la campagne de cette sensibilisation. Et n'oubliez pas que cette constitution, c'est quand même cet impact républicain qui a mis fin à un cycle de violence qui serait beaucoup plus nuisible que la situation actuelle. Alors, nous pensons que, quelle que soit la pertinence de l'un ou l'autre point qui peut être revu ou pour améliorer le fonctionnement du pays, le contexte actuel, le contexte social, le contexte sécuritaire, le contexte politique sont tels que c'est un passage d'y aller pour le moment et surtout pas avec les intentions telles que dévoilées par l'un ou l'autre qui voudraient bien toucher aux articles verrouillés ou simplement les contourner par un changement de constitution.
Est-ce que la maladie dont souffre la justice congolaise ne constitue pas une opportunité pour revoir cette constitution?
Bon, je crois qu'il faut voir les évêques dans leur mémorandum. Ils ont conseillé au chef de l'État de voir tous les aspects. Ça, ce n'est qu'un aspect. Mais je crois que le pays aujourd'hui a plus besoin de la paix, de la stabilité que toute autre chose pour nous permettre. Donc on peut aller dans le légalisme, on peut aller dans toucher au texte de loi, mais si c'est dans un environnement qui voit encore enfoncer le pays dans la division, je crois que c'est un passage.
Monseigneur Donatien Chollet, je vous remercie.
Merci.
Le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, répondait aux questions de Jeff Ngoy Mulunda. Par ici prend fin ce journal coordonné par Jacques-Yves Molima Aouta, supervision de Alain Rungushinj, Deps Vita à la mise en onde. Merci d'avoir été des nôtres.